RCF.
On a bien compris, Gabriel Martinez-Gros, que finalement, la reconquête de Grenade par les rois catholiques n'aboutit pas à une mise à sac de la ville. Elle est préservée, ses habitants aussi. Finalement, cette reconquête, qu'est-ce qu'elle change pour la ville ?
On n'a pratiquement pas, malheureusement, de chronique arabe sur la reconquête de Grenade et la suite. Mais la seule chronique anonyme dont nous disposions, qui est probablement d'origine marocaine, dit que les conditions de la capitulation étaient trop favorables. Et c'est ce qui a amené finalement la catastrophe suivante, c'est-à-dire d'abord que les musulmans de Grenade, fort bien traités par la convention de capitulation, sont restés, alors que probablement beaucoup pensaient qu'ils partiraient. Le second point, c'est qu'ils n'ont pas compris forcément, puisque, comme nous le disions les jours précédents, ils venaient d'un autre monde, celui de la tolérance et de l'inégalité. Ils n'ont pas compris qu'ils étaient en face d'une civilisation de la cohésion, de l'homogénéité et donc de la conversion. C'est-à-dire que d'emblée, le projet de conversion est compris dans la tête des rois catholiques. C'est d'ailleurs, à leurs yeux, bien entendu, comme aux yeux de l'Église en général, c'est une grâce à faire aux gens de Grenade. On ne va pas les laisser dans leur fausse religion tout de même. Et la reconquête même de Grenade, qui a pratiquement évité la violence, est tellement en contraste avec la conquête de Constantinople qui s'est terminée par un immense massacre par les Turcs, que la supériorité du christianisme en est évidente, non pas seulement pour les rois catholiques d'Espagne, mais par exemple pour le roi d'Angleterre, Henri VII, Tudor, le fondateur de la dynastie des Tudors, le père d'Henri VIII, qui monte en chair lui-même à la cathédrale Saint-Paul de Londres pour annoncer la victoire de Grenade et pour annoncer que la conquête de la ville et du territoire sera suivie par plus important encore, beaucoup plus important, c'est-à-dire la conquête des âmes, c'est-à-dire la conversion au christianisme des populations.
Mais manifestement, les populations et les musulmans ne l'ont pas compris comme ça ?
Ne l'ont pas compris comme ça, c'est curieux. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils allaient devenir des démis à l'intérieur d'un territoire désormais fondamentalement chrétien, qu'ils seraient inégaux, bien entendu, comme ils avaient l'habitude de l'imposer aux autres, qu'ils seraient à leur tour infériorisés, mais qu'ils continueraient à exercer pour l'essentiel leur religion.
Ça ne se passe pas comme ça ?
Ça ne se passe pas comme ça. Plusieurs révoltes, dans les 10 ans qui suivent la reconquête, amènent les rois catholiques à révoquer les conditions de la capitulation.
Parce que très concrètement, on demande aux gens de se convertir à un moment donné ?
Soit vous vous convertissez, soit vous partez. C'est la même demande qui a été faite aux Juifs, les mêmes conditions qui ont été imposées aux Juifs en 1492, sinon que la réaction sera différente chez les musulmans. Les Juifs, dans leur immense majorité, partent en 1492. Les musulmans, dans leur immense majorité, restent, prétendent se convertir, mais en fait ne se convertissent pas. Et ce sera tout le problème de l'Espagne du XVIe siècle, que cette minorité qu'on appelle les morisques, donc qui représentent environ 5% de la population du royaume d'Espagne, qui est en principe chrétienne, mais qui en réalité ne l'est pas, et qui manifeste tous les signes, non seulement de l'indifférence, mais de l'hostilité au christianisme, c'est-à-dire que les morisques vont s'inventer une religion musulmane qui est beaucoup plus antichrétienne que ne l'est l'orthodoxie musulmane, étrangement. Parce que la polarisation des positions va conduire à une véritable haine populaire, il faut bien le dire. Les élites discutent, et quelquefois de façon intéressante, les classes populaires, et cela nous rappelle des événements contemporains tout à fait comparables, les classes populaires sont dans des situations d'opposition et de polarisation beaucoup plus violentes.
Pourquoi les rois catholiques font-ils construire leur futur tombeau à Grenade ?
Ah, tout simplement parce que Grenade est l'immense victoire du règne, bien entendu. Nous sommes avant la conquête de l'Amérique. C'est quelque chose que nous n'avons pas en tête, c'est-à-dire comment en une vingtaine d'années le monde va se déplacer, comment la découverte de l'Amérique va amener la naissance d'un nouveau monde, va détourner les énergies de la péninsule ibérique d'une manière générale, Espagne et Portugal, vers les horizons ultramarins, et va curieusement ôter un peu ou beaucoup de son importance à la conquête de Grenade. Grenade va céder le pas à Séville. La vraie porte de l'Amérique pour le royaume d'Espagne, ce sera Séville, ça va devenir Séville, ou Lisbonne, hein, au Portugal. Et Grenade va relativement perdre de son importance. Mais en 1492, cette conquête de Grenade, c'est encore une fois la réplique à la perte de Constantinople. Et donc, c'est un point très essentiel. Les rois catholiques font construire, en effet, là, leur tombeau, exactement comme leur ancêtre Ferdinand III avait fait construire son tombeau à Séville après la reconquête de la ville en 1248.
C'est un signe très fort.
C'est un signe très fort d'installation, d'enracinement du christianisme. Et au départ, Charles Quint poursuit sur ce même projet, c'est-à-dire que l'idée, c'est de faire de Grenade et de la cathédrale de Grenade la capitale et la nécropole des rois d'Espagne. C'est Philippe II, une fois de plus, qui va changer totalement les choses en instituant Madrid pour capitale et en instituant El Escorial, le fameux monastère d'El Escorial qu'il fait construire pour son palais et pour nécropole de la dynastie des Habsbourg, de la dynastie des descendants de Charles Quint.
Alors dans ce contexte, Gabriel Martinez Gros, d'un monde qui découvre un autre monde, le nouveau monde, et où vous l'avez indiqué, hein, les choses vont se passer d'une manière tout à fait nouvelle.
Oui, inattendue.
Le monde ancien.
Grenade, c'est un peu le monde ancien. Oui, tout à fait.
Qu'est-ce que ça devient ?
Alors, ça devient d'abord la magnifique ville renaissance, en effet, du XVIe siècle, parce que le projet de Charles Quint, on ne mesure pas tout de suite hein, l'importance de l'Amérique, ou ce que sera l'importance du continent américain. Le projet de Charles Quint demeure donc pendant un temps de construire probablement autour de Grenade une forme de capitale. Il a pensé aussi à Lisbonne, hein, pour être honnête. Enfin, c'est plutôt Philippe II qui pensera à Lisbonne quand il annexera le Portugal. Mais petit à petit, c'est vrai, Grenade vit un merveilleux siècle d'or, avec les noms qu'on a évoqués précédemment, comme Diego de Siloe, l'architecte de la cathédrale, Alonso Cano, qui est un des très grands peintres et architectes de l'Espagne du XVIIe siècle, condisciple de Velázquez dans l'atelier de Pacheco à Séville. Il était sévillan d'origine, mais il a travaillé surtout à Grenade, et donc d'autres. Mais à partir du XVIIe siècle, Grenade s'endort un peu comme toute l'Espagne. Hein, il faut dire, c'est le début du déclin de l'Espagne. Et Grenade est réveillée par le siècle des Lumières, à la fin du XVIIIe siècle. Alors, en grande partie sous l'influence des étrangers.
Hein, des qui étrangers, redécouvre cette cité.
Voilà, qui redécouvre le mythe andalou. Hein. Ça va devenir, l'Alhambra en étant le symbole, la ville par excellence, étrangement, de la présence arabe en Espagne. Alors que probablement la dynastie des Omeyyades, qui a construit Cordoue, est considérée aujourd'hui comme la dynastie la plus importante hein, de l'histoire de l'Espagne arabe. À la fin du XVIIIe siècle et tout au long du XIXe siècle, ce sera Grenade. Et en fait, pour le tourisme d'aujourd'hui, il en est de même. Hein. C'est toujours Grenade qui est l'incarnation par excellence de l'Espagne arabe.
Alors Grenade fait partie du début du tourisme dans ce fameux tour qu'on effectue
tout à fait.
À la fin du XVIIIe, voilà, XIXe siècle. Voilà. On peut passer ou on passe par Grenade.
Absolument. D'abord, il faut dire qu'il y a deux puissances, je disais, les étrangers. Il y a deux puissances européennes, hein, fondamentalement, ou deux langues européennes majeures et centrales. Qui sont dominantes dans la découverte ou la redécouverte de Grenade, c'est le français et l'anglais. Hein. C'est-à-dire l'anglais de Swinburne ou de l'américain Washington Irving qui écrit les contes de l'Alhambra en 1831 et le français de Chateaubriand, du dernier des avant-serrages, de Custine dont on parlait précédemment, d'Edgar Quinet, de Théophile Gautier et de beaucoup d'autres. Et puis il y a la photographie, qui est une invention française, comme vous le savez. Et la photographie est très vite présente à Grenade. J'avoue, je ne sais pas très bien pourquoi.
Grenade est photogénique, peut-être ?
Voilà, tout simplement, hein, tout simplement. Et en tout cas, Grenade est photographiée très, très vite, très, très tôt. Alors, en particulier par des photographes français, c'est vrai. Il est probable que Eugénie de Montijo, le lien entre que crée le mariage d'Eugénie de Montijo avec Napoléon III, elle était grenadine hein, d'origine, enfin la famille est Montijo et grenadine d'origine, fait qu'il y a une présence plus particulière des photographes français, et aussi, encore une fois, parce que la photographie est une invention française. Et donc, Grenade est photographiée très très tôt, dès les années 1850.
Ce qui contribue à la faire connaître et à diffuser ces images.
Et c'est... Alors, ce grand tour, au départ, c'est un tour vers l'Italie et vers la Grèce. Mais Grenade s'y ajoute, vous avez tout à fait raison, dès la fin du XVIIIe siècle. Chateaubriand en est un des meilleurs exemples. Hein, en revenant de la Grèce, il retrouve Grenade, à vrai dire, il trouve Grenade parce qu'il y rencontre sa maîtresse, hein, Nathalie de Noailles. Mais, comme il le dit lui-même, je n'ai pas trouvé Grenade indigne après avoir vu la Grèce. Et quand on sait l'admiration sans borne, presque aveugle, que les Européens de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle manifestent pour l'art grec, dire que Grenade ne lui est pas tout à fait inférieur est déjà beaucoup.
C'est aussi l'attrait de ce qui concerne l'Orient.
Tout à fait. Grenade est un Orient à disposition. Hein, c'est-à-dire à portée de main. Qu'est-ce qu'on sait de l'Orient, à vrai dire, au XIXe siècle? On connaît le Caire depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte. On connaît un peu tout de même Constantinople, bien sûr. Mais la plupart des grands sites et des grandes mosquées restent relativement fermées hein, aux Européens. Grenade est ouverte.
Hein, et préservée.
Et préservée. Et elle présente un art islamique complètement différent d'un immense raffinement qui fascine en effet les Européens, dont beaucoup se demandent d'où vient cet art. Hein. C'est aussi la naissance d'une histoire de l'art, Grenade, et d'une histoire de l'art islamique.
Un très grand merci d'être venu nous parler de cette histoire de Grenade en particulier. Gabriel Martinez-Gros, je rappelle que vous êtes l'auteur d'un livre consacré à cette histoire qui est paru chez Fayard et que vous avez coécrit avec Sophie Macariou. Vous êtes spécialiste de cette période médiévale et de tout ce qui concerne l'islam médiéval.
Merci beaucoup à vous.
Merci à vous et merci à Pierre-Henri Paget qui était à la technique.